Voilà, nous allons commencer. J'espère que le cours ne vous terrorise pas trop. C'est pas le but. C'est plutôt d'avancer dans la compréhension. Alors, aujourd'hui, comme vous voyez sur vos feuilles, on va travailler le magistère et l'expérience spirituelle qui vont encore nous aider à mieux comprendre les choses. Donc, si le magistère a pu déterminer certaines choses, c'est grâce au travail que nous avons vu ensemble. Alors, je n'ai pas tout dit sur tout ce qui s'est passé dans l'église, c'est juste pas possible en 14 heures. Je ne sais pas si un an suffira d'ailleurs ensuite, mais bon. Vous voyez bien qu'il y a des bases et il y a certaines choses que j'ai mises en relief. Donc, l'écriture, évidemment, qui est la première source de réflexion de l'Église, quand même. Hein. C'est sa vie. C'est l'Église qu'on lit tout le temps. C'est l'écriture, pardon, qu'on lit tout le temps. C'est pas les théologiens. Les pères de l'Église, ensuite, comme première réflexion sur l'écriture, et puis les théologiens comme Bernard, comme Bonaventure et Thomas, ce sont des exemples. Hein. Mmh. Et bien sûr, ils forgent l'esprit aussi. Et donc, le magistère, il est un petit peu comme un vigneron qui vendange les fruits de la vie chrétienne et de la réflexion théologique. Et en fait, ces déclarations, c'est la reconnaissance de ce que l'Esprit a dit à l'Église. À un moment, les choses sont suffisamment mûres. Et donc l'Église, dans son magistère, dit « Mais ça, nous pouvons l'affirmer. » Parfois, elle est obligée d'affirmer parce qu'on en dit le contraire. Donc ce qui était paisiblement certain depuis toujours, subitement se trouve nié, et l'Église se voit contrainte d'affirmer les choses. Le magistère, en fait, n'aime pas faire un dogme, généralement. C'est à contre-cœur qu'il le fait, plutôt. Il préfère simplement annoncer la foi. Alors, tout ce que le magistère dit, ça n'épuise pas la réalité du mystère. Mais ça devient des certitudes de foi qui sont autant de repères sûrs pour continuer la recherche théologique. Ce sont des indicateurs qui tiennent au-delà là où on se trompe. En ce sens, c'est assez confortable aussi. Attention, ce sont des indicateurs pour mieux lire l'écriture et pour revenir à l'écriture. Alors, je vais parcourir le magistère, ça a quelque chose de très sec, puisque l'écriture, c'est savoureux. Les pères de l'Église, on voit comment ils tâtonnent, puis les théologiens ont une rigueur qui est beaucoup moins savoureuse, mais qui satisfait la raison pour le coup. Le magistère, lui, ne fait pas un effort de synthèse, il essaie simplement de dire les choses. Donc, ça peut être assez sec. Alors, premier millénaire, on l'a vu, hein, c'est surtout penché, essayer de travailler ce qui concerne le retour du Christ, la résurrection des morts, le jugement dernier. Et donc, on peut dire que le premier millénaire réfléchit surtout, pas uniquement, mais surtout, à l'eschatologie collective. Ce qui se passe pour tout le monde ensemble. Le deuxième va être plus travaillé, c'est une question de balance, par l'eschatologie personnelle. Et si on regarde le Denzinger, je ne sais pas si vous connaissez le Denzinger, c'est un énorme livre comme ça qui reprend tout ce que l'Église, tout ce que le magistère a dit. C'est un coup de génie, c'est un Allemand évidemment qui a fait ça. Il n'y a que qui ont l'énergie de faire ce genre de truc. Et il a vraiment fait la compilation. De cela, et donc c'est très, très intéressant parce que si on veut rapidement savoir tout ce que l'Église a dit, vous achetez des Denzinger, vous lisez, vous savez. Et évidemment, c'est sec, mais au moins c'est précis. Alors, si on regarde dans le Denzinger, hormis les professions de foi, pour le deuxième millénaire, il n'est pas question, il est autour du Christ, du jugement dernier, jusqu'à Vatican II. Quand même impressionnant. Il y a deux fois deux exceptions. à propos du jugement dernier. On en parle dans la Constitution Benedictus Deus, on va revenir là-dessus, et puis au Concile de Trente. Et les deux autres exceptions, c'est concernant la résurrection des morts. Aussi, il n'en est question que dans les professions de foi. Une profession de foi, ce n'est pas neutre, c'est justement très fort. C'est, on dit, l'essentiel de notre foi, donc c'est pas symbolique, là. De nouveau dans Benedictus Deus et dans les erreurs de Balus. Je ne sais pas comment s'expliquer qui est Balus, parce que là, on n'est pas pris pour la gloire. Et donc, jusqu'à Vatican II, qui est quand même dans le deuxième millénaire, mais je le compte hors de ce millénaire, c'est la réflexion s'est développée à propos de la mort avant le retour du Christ, avant la résurrection. Alors, le deuxième millénaire, évidemment, il assume les principaux acquis du millénaire précédent. Déjà dans sa profession de foi, donc il ne renie rien de tout cela. Vous avez le quatrième concile de Latran en 1215. Je vous cite ce qu'il dit. Jésus viendra à la fin des temps, il jugera les vivants et les morts et rendra chacun selon ses œuvres. Pour éprouver comme aux élus. Tous ressusciteront avec leur propre corps qu'ils ont maintenant pour recevoir, selon que leurs œuvres auront été bonnes ou mauvaises, les uns un châtiment éternel avec le diable, les autres une gloire éternelle avec le Christ. Donc il réaffirme paisiblement le retour du Christ, le jugement, la résurrection des corps, et puis un sort positif ou négatif en fonction des œuvres. Et peut-être un petit ajout quand même, c'est l'identité du corps ressuscité avec celui que nous avons maintenant. Alors, ici, il n'est pas encore, donc en 1215, il n'est pas encore question de l'état des hommes morts jusqu'au retour de Christ. Quelques années plus tard, au Concile de Lyon, c'est-à-dire en 1274, vous vous souvenez que c'est l'année de la mort de Bonaventure et Thomas d'Aquin, le concile redit sa profession de foi, dit la venue d'un jour de jugement où, je cite, tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ pour y rendre leur compte de leurs propres actions. Donc voilà l'assomption de ce qui était dit avant. Maintenant je développe, on va dire, le corps de l'eschatologie personnelle, et ça commence, on peut dire, à partir de 1254. Et donc je vais prendre un à un le ciel, le purgatoire et l'enfer, donc plutôt thématique cette fois-ci. Alors quand on lit le Denzinger et qu'on lit tout ce que l'Église a pu dire, il y a différents types d'écrits, et il est très important qu'on réfléchisse théologiquement de ne pas mettre sur le même pied. Là, je vais les prendre un peu à la suite, là, avec d'autres. On ne va pas mettre sur le même pied une homélie, une demande de profession de foi à quelqu'un, une bulle et une définition. Et un concile, ce sont des degrés d'importance différents. Donc, il faut bien avoir cela en tête. Alors, à propos du ciel... Donc Innocent IV, en 1254, écrit à l'évêque de Tusculum, et donc c'est un rapport avec les Grecs qui est entré en question, et le pape affirme ceci, les âmes des petits-enfants morts après le bain du baptême, et c'est les adultes, morts en étant en état de charité, qui ne sont pas retenus par le péché, ni par la satisfaction du péché, et alors il dit, passe immédiatement à la patrie éternelle. Ce qui est nouveau, c'est l'adverbe, immédiatement. 20 ans plus tard, Concile de Lyon, là c'est le pape Grégoire X. Alors l'Église à cette époque-là, pardon, et je vais rapprocher le micro, et un peu plus tôt. est très préoccupé par la séparation avec les Grecs. Donc beaucoup de papes ont essayé de vraiment retrouver l'unité. Et Grégoire X va relire de manière solennelle le texte qui était proposé par un de ses prédécesseurs à l'empereur Michel le Paléologue en 1267. Donc peu de temps avant, 7 ans avant. Et il professe solennellement, donc il y avait une simple lettre, puis on reprend cette lettre, mais hops, on le professe solennellement, donc c'est déjà plus important. Les âmes de ceux qui sont morts après le baptême sans souillure du péché, ou qui après une souillure sont purifiées, de nouveau sont immédiatement reçues dans le ciel. Alors, ici, un petit, changement. Avant, on parlait de passer, à la patrie éternelle. Ici, il s'agit d'être reçu. Et on parle de ciel, justement. Concile de Vienne, 40 ans plus tard, donc 1312, il est dit que, non plutôt, il y a une idée qui est condamnée cette fois-ci. Donc de nouveau, on n'est pas en mathématiques ici. Si je dis que B est faux, ça ne veut pas nécessairement dire que A est vrai. Alors, il faut être très précis. Donc il est condamné l'idée selon laquelle l'âme n'a pas besoin d'une lumière de gloire qui l'élève pour voir Dieu et jouir de la béatitude. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas besoin de cela se trompe. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? C'est que l'homme, en fait, a besoin de quelque chose pour voir. Et qu'il ne peut pas voir Dieu de ses propres forces. Mais le concile n'explique pas ce qu'il entend par lumière de gloire. Alors, on peut voir toutes les théologies qui étaient autour, ce qu'on entendait communément par lumière de gloire. En 1329, Jean XXII va condamner des idées qui sont attribuées à Maître Eckhart. Idée selon laquelle, en fait, alors on ne dit pas que Maître Eckhart l'a dit, mais sont attribuées, vous voyez toutes les nuances, hein, qu'au ciel on devient Dieu. Voilà. Il y a vraiment une différence entre Dieu et nous, elle est respectée, elle est maintenue. Alors, maintenant, Benoît XII a proclamé une bulle qui s'appelle Benedictus Deus, que vous avez sur vos feuilles, en 1336. Et ça, c'est très important. La raison pour laquelle c'est très important, c'est la première phrase que vous avez sur votre texte. Puisque le pape dit « Par cette constitution qui restera à jamais en vigueur et en vertu de l'autorité apostolique, nous définissons. » Donc trois choses ici sont dites. C'est le caractère définitif de ce qui va être dit. Le pape s'engage, il s'engage en vertu de son autorité apostolique et il définit. Donc là, on est presque dans le top de la certitude qu'on puisse avoir. Donc, c'est vraiment un degré de certitude et d'engagement très élevé. L'arrière-fond historique est intéressant. Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir à Jean XXII. Jean XXII avait fait des homélies qui avaient suscité énormément de réactions, alors que dans ces homélies, voilà, il transmettait un peu son opinion personnelle. Hein? Chaque fois que le pape parle d'une homélie, il n'engage pas toute la foi de l'Église, toujours, à un degré de certitude élevé. Parfois, dans une homélie, voilà, il faut remettre un peu les choses dans le contexte aussi. Et donc, le Saint-Père disait que les élus, à leur mort, ne jouiraient de la vision béatifique qu'après le jugement dernier et la résurrection de la chair. En fait, il avait lu Saint Bernard, il avait lu quelques homélies de Saint Bernard, Et donc, il pensait que les âmes restaient sous l'autel, c'est-à-dire sous l'humanité du Christ, et qu'il ne voyait que l'humanité du Christ. Alors, réaction profonde, puisque ça voudrait dire que la béatitude des élus était incomplète, ou serait incomplète. Alors, il a lancé une commission qui a travaillé, et il s'est rétracté. Juste avant sa mort, il avait préparé une bulle qu'il n'a pas eu le temps de publier. C'est son successeur, un des cardinaux qui était dans la commission, qui va la décréter, donc ici, Benoît XII. Et lui aussi a continué a fait travailler une commission. Donc ils n'ont pas fait ça à la légère. Alors, lisons la définition de la Constitution. Il vaut vraiment la peine qu'on s'y attarde. Nous définissons que, selon la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints qui ont quitté ce monde, avant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que celles des saints apôtres, martyrs, confesseurs, vierges et autres fidèles morts, après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y avait rien à purifier lorsqu'ils sont morts, et en qui il n'y aura rien à purifier lorsqu'ils mourront à l'avenir, ou s'il y a eu, ou s'il y aura quelque chose à purifier lorsque, après leur mort, elles auront été purifiées, et que les âmes des enfants régénérés par ce même baptême du Christ, ou encore à baptiser une fois qu'ils l'auront été, s'ils viennent à mourir, avant d'user de leur libre arbitre, aussitôt après leur mort. Et la purification dont nous avons parlé pour celles qui en auraient besoin, avant même de reprendre leur corps, et avant même le jugement, et cela depuis l'ascension entre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ça va, vous suivez, hein, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis terrestre, avec le Christ, céleste, pardon, oui, merci. Je suis heureux de vous savoir que vous suivez bien. Réunis dans la compagnie des saints anges, et que depuis la passion et la mort du Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine d'une vision intuitive, et même face à face, sans la médiation d'aucune créature qui serait objet de vision. Au contraire, l'essence divine se manifeste à eux, immédiatement, à nu, clairement et à découvert. Et que, par cette vision, elles jouissent de cette même essence divine. Et qu'en outre, en raison de cette vision et de cette jouissance, les âmes de ceux qui sont déjà morts sont vraiment bien heureuses et possèdent la vie et le repos éternel. Et que de même, les âmes de ceux qui mourront dans la suite verront cette même essence divine et en jouiront avant le jugement général. Et que cette vision de l'essence divine et sa jouissance font disparaître en elle les actes de foi et d'espérance, dans la mesure où la foi et l'espérance sont des vertus proprement théologiques. Et que, après qu'une telle vision intuitive face à face et une telle jouissance ont commencé ou auront commencé, cette même vision, cette même jouissance existe de façon continue, sans interruption, ni amoindrissement de cette vision et de cette intuition, et demeure sans fin jusqu'au jugement dernier et après lui pour toujours. Donc c'est Pierre qui l'ont phrase allemande. En outre, nous définissons que, selon la disposition générale de Dieu, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent aussitôt après leur mort en enfer, où elles sont tourmentées de peine éternelle. Et que néanmoins, au jour du jugement, tous les hommes comparaîtront avec leur corps devant le tribunal du Christ pour rendre compte de leurs actes personnels, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait pendant qu'il était dans son corps, soit en bien, soit en mal. Alors vous voyez, le magistère essaie d'être très très précis pour ne pas faire d'erreur. D'où cette phrase complètement zéro en littérature. Donc la définition, vous voyez, elle est très très riche. Elle est divisée en trois parties. J'ai essayé de faire une petite exégèse de cette définition. C'est moi qui ai fait la structure. Donc, vous voyez que la quasi-totalité du texte concerne le ciel. La deuxième, très brève, sur l'enfer. La troisième, sur le jugement. Alors, je parlerai de celle de l'enfer quand on abordera la thématique de l'enfer même. Donc, je reste sur le ciel ici. Donc, première partie, vous voyez cinq ensemble, A, B, C, D, E. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Le magistère précise de quels âmes il s'agit. Il dit les saints de l'Ancien Testament, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges, les autres fidèles morts, les enfants baptisés décédés. Et, on pourrait ajouter, mais ça vient après, ceux qui vont mourir. Donc, on ratisse très large. Grande ouverture. Il y a deux précisions restrictives. Il ne s'agit premièrement que des morts qui ont été baptisés et qui n'ont pas exigé de purification ou bien qui l'ont terminé. La seconde précision, c'est une double détermination temporelle. Cela ne concerne tout d'abord que les âmes des personnes situées à l'intérieur d'une période d'histoire très précise. C'est-à-dire entre l'ascension du Christ, d'une part, et la résurrection des corps et le jugement, d'autre part. Donc, l'accès au ciel est ouvert depuis l'ascension. Il dit, de cela, au moins, on est sûr. Et c'est valable pour les âmes des personnes qui, à l'intérieur de cette période, ont été baptisées et sont déjà décédées, sont déjà baptisées ou qui seront baptisées et qui seront décédées. Donc ça s'applique au passé, pour nous, en tout cas au passé, présent, futur. La seconde précision temporelle, c'est le moment à partir duquel cela s'applique aussitôt après la mort, aussitôt après avoir terminé la purification. Donc de nouveau ici on souligne l'immédiateté. Il n'y a pas d'état intermédiaire comme chez Saint Bernard. Dans le deuxième ensemble, on va déterminer le lieu où les âmes de ces personnes se trouvent dès la mort. Donc c'est le ciel. On l'identifie au royaume des cieux avec le paradis céleste. Il est dit, c'est être avec le Christ et ses anges. Donc ici, il y a une réalité personnelle qui reste à jamais marquée par l'origine historique insérée dans le mystère pascal. Donc la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'on parle vraiment du Christ là. Le troisième ensemble, on dit en quoi consiste ce ciel. C'est la vision, la jouissance et la béatitude. Donc c'est la vision de l'essence divine d'une vision intuitive. Et donc un face-à-face avec Dieu. On précise cette vision négativement encore et positivement. Ce n'est pas celle que nous pouvons avoir ici-bas. Il y a une différence par rapport à ce qu'il y a maintenant. Et il se réalise sans aucune médiation créée. Alors, soyons très précis, les trois mots vont ensemble. Il n'est pas dit sans aucune médiation, mais sans aucune médiation créée. Hein, par exemple, c'est important parce que sinon ça voudrait dire que cette définition refuse la lumière de gloire. Alors, cette vision est due à l'essence divine qui se manifeste elle-même de manière immédiate, nue, claire. Donc, c'est vraiment Dieu lui-même qui fait en sorte que les âmes puissent le voir. Alors le terme choisi, c'est la vision. La vision, c'est un acte de l'homme. Et donc, c'est une activité, la vision. Mais c'est une activité qui n'est pas sans exclure, qui n'exclut pas nécessairement une certaine passivité. Donc, la vision dit l'action de l'homme qui laisse la chose vue par le moyen de la lumière être présente en lui. On laisse la chose vue par le moyen de la lumière être présente en soi. Et cela procure la jouissance qui est possession de ce qui était cru espéré. Donc, c'est aussi la béatitude. C'est une béatitude qui est vie, à la fois vie et repos éternel. Donc ce n'est pas une passivité, mais c'est une activité qui procure le repos. Je crois que ce serait intéressant pour une théologie du travail, ça. Le quatrième ensemble, les conséquences de cette vision, de cette jouissance, c'est la disparition de la foi et de l'espérance. Puisqu'on a ce qu'on croyait et ce qu'on espérait, il n'y a plus lieu qu'elle soit là. On ne parle pas de la charité, grand absent, étonnant. Le cinquième ensemble précise que la permanence de la vision est la jouissance jusqu'au jugement et après lui pour toujours. Donc le jugement ne détermine pas ici un changement d'état par rapport à cela, par rapport à la vision, on s'entend. Donc vraiment, c'est un caractère définitif. Et donc, ici, la définition, la constitution montre très clairement que toute idée selon laquelle la vision béatifique ne serait possible, donc le bonheur plein serait possible qu'avec la résurrection de la chair est fausse. Il y a déjà un bonheur plein dès la mort pour ces âmes-là. Je passe à la troisième partie. Il dit il y aura un jour de jugement et chacun rendra compte devant le tribunal du Christ de ce qu'il a fait et il recevra en fonction de cela son salaire. Donc la rétribution immédiate, le aussitôt après la mort, ne supprime pas un jugement à venir. Il y a une distinction très claire qui est faite entre l'eschatologie personnelle et collective. En même temps, elles sont articulées. Donc il apparaît clairement que l'homme reçoit la gloire ou la réprobation en son corps aussi, comme en son âme au jugement dernier. Alors, les quatre mentions du jugement, c'est chaque fois le jugement dernier. Il n'est pas question ici, le mot n'est pas là, de jugement particulier. Et d'ailleurs, là, on voit bien que la constitution ne se focalise pas sur le jugement dernier, mais vraiment sur ce qui se passe aussitôt après la mort. Voilà pour la constitution. On peut souligner quelques, ou bien être étonné par quelques carences. Rien n'est dit sur le rôle de l'humanité de Christ glorifié au ciel, et rien n'est dit non plus sur le caractère trinitaire de la vision. Alors, peu de temps après, en 1341, le pape condamne l'idée sur laquelle les bienheureux ne verraient pas l'essence de Dieu, mais seulement l'éclat qui émane de son essence même. Oui, simplement le rayonnement, on va dire. Et donc là, il dit non, ça ne va pas. Donc de nouveau, il souligne cette vision de l'essence même de Dieu, de ce que Dieu est en lui-même. 15 ans après la Constitution, Clément VI, en 1351 donc, dit, mais oui, mais le ciel, c'est voir Dieu, mais c'est aussi l'aimer. On n'avait pas parlé d'amour. Donc, une petite précision bienvenue. Bien plus tard, en 1439, lors du Concile de Florence, Eugène IV affirme que la vision de Dieu en lui-même est celle du Dieu un et trine. Donc ça, c'est affirmé quand même. C'est vraiment la vision du Dieu trinitaire. Et il dit, il y a une différence aussi, c'est une autre chose qu'il ajoute, il y a une différence de perfection entre les âmes au ciel en fonction des mérites. Donc il y a une diversité dans la perfection de la vision, qui est fonction de la manière dont la liberté de chacun s'est engagée. Enfin, dernière chose pour le ciel, il faut attendre 4 siècles là, on saute 4 siècles pour avoir le dernier écrit magistral qui précède Vatican II sur le sujet, et c'est de qualité moins haute, puisque, enfin, de moins haute autorité, puisque c'est le Saint-Office, c'est-à-dire la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1887, et là, on s'attache à Rosmini, et on avait compris certaines choses de Rosmini. Aujourd'hui, Rosmini a été réhabilité. Mais donc, on dit « est fausse l'affirmation selon laquelle Dieu ne peut pas se communiquer totalement aux êtres finis. » Donc Dieu est infini, nous sommes finis, donc en fait ce n'est pas possible, Dieu ne peut pas vraiment se donner. Et donc, on ne pourrait pas vraiment voir l'essence de Dieu. Ce ne serait que par la médiation de la sagesse et de la bonté brillant des créatures que nous verrions Dieu. Non, non, c'est pas seulement dans la création transformée, c'est vraiment Dieu en lui-même. Alors de nouveau, s'il réaffirme que on voit l'essence de Dieu, il ne dit pas qu'au ciel, il ne peut pas y avoir de médiation. Il ne condamne pas le fait que l'on puisse voir Dieu au ciel par ses médiations, mais seulement le fait que cela serait nécessaire et ne serait que ce que les bienheureux pourraient voir. Vous voyez la nuance? C'est assez subtil. Voilà pour le ciel. Alors le purgatoire. Alors, bref petit rappel, le purgatoire, ça... La théologie s'est développée de différentes manières, grâce à l'écriture sainte, à la réflexion théologale, aussi grâce à la prière, et surtout la prière des défunts, le fait qu'on a célébré la messe pour les défunts. Aussi, c'est dû à la pratique du sacrement de la pénitence, donc le sacrement de la réconciliation, comme on l'appelle aujourd'hui, et à certains récits de revenants qui étaient transmis à l'époque. Donc il y a une prise de conscience quand même qu'il faut se détourner du péché commis et qu'il y a une tension entre le mouvement imprimé par la faute pardonnée et le désir de vivre à nouveau de la grâce donnée par le pardon. Oui, donc il y a une tension là. Et il y a une conscience qu'il faut expier quelque chose là, expier une peine qui est due à cette tension, que ce soit ici sur terre ou après la mort. Alors le terme purgatoire, en soi, ne vient que très tard. La réalité, on l'a bien vu avec Julien Tellet, c'est très clair, hein, il en parle, Augustin aussi. Mais le terme purgatoire est absent du premier millénaire. Et donc, on va commencer seulement à inventer ce terme, si on peut dire, en 1170. C'est là que le substantif temple-tel apparaît. Avant, on parlait d'un feu purgatoire. Donc, le terme était plutôt un adjectif. Alors, je reviens à 1904 avec sa lettre à son évêque, là, en 1254. Donc, on parle des fautes qui sont remises ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, en se référant à Matthieu 12, 32. On l'a vu ensemble pour l'écriture. Et la lettre dit ceci. Ce qui nous fait comprendre que certaines fautes sont déliées dans le siècle présent, mais d'autres dans le siècle futur. les âmes de ceux qui meurent après avoir reçu la pénitence, mais sans l'avoir accomplie, ou qui meurent exempts de péché mortel, mais avec des péchés véniels et minimes, sont purifiés après la mort et peuvent être aidés par les prières de l'Église. Alors ici, c'est une lettre. Et le pape précise qu'il appelle ce lieu le purgatoire. Au Concile de Lyon, 1274, on reprend l'idée de purification aussi. Donc on ne parle pas du lieu de purgatoire substantif. Et il précise, le Concile, le moyen de cette purification, des peines purgatoires et purifiantes. Et il dit, mais cela n'est d'application que pour les âmes de ceux qui meurent dans la charité, sans avoir satisfait à leur péché. Il reprécise, il est possible d'adoucir les peines par l'Eucharistie, les prières, les aumônes et les œuvres de piété. Dans la Constitution, on l'a vu, donc de Benoît XII, 1336, vous voyez bien que on aborde cela que de manière latérale, puisqu'on parle du ciel surtout. On vise à préciser qui est au ciel. Et donc, arrive au ciel les âmes en lesquelles il n'y a ou il n'y aura rien à purifier, ou de quelque chose à purifier, ou qui a été purifié. Donc vraiment, l'idée de purification est bien incluse dans la Constitution. Et donc, on voit que la Constitution ne met pas en parallèle trois états. Il y aurait l'enfer, le purgatoire, le ciel. Ben non. Il parle du ciel et de l'enfer. Ça veut dire aussi que on ne parle des peines purificatrices ou des personnes qui sont en train de vivre ces peines que dans la dynamique d'aller vers le ciel. C'est quand même rassurant. Alors, la Constitution ne parle pas de purgatoire et ne parle pas de feu non plus. Mais seulement de purification pour certains. Mais donc, cette idée de purification entre, par contre, dans les certitudes de la foi avec la définition. Alors, Clément VI, en 1351, il va reprendre les termes utilisés par le Concile de Lyon et Innocent IV. Donc, et lui va reprendre l'idée de feu qui se trouvait dans cette lettre d'Innocent IV. Il dit, les âmes du purgatoire sont tourmentées par le feu pour un temps de purification. Au Concile de Florence, en 1439, Eugène IV parle aussi de purification et de peine purgatoire, mais pas de purgatoire ni de feu. Et une des originalités de ce concile, c'est de parler en termes de réparation de fautes commises par action ou par omission. Et il affirme, ces personnes qui sont purgatoires sont dans l'amour de Dieu. Sont déjà dans l'amour de Dieu. Alors évidemment, quand on parle de purgatoire, on parle des indulgences. Régulièrement, le magistère va en parler par ce biais-là. Et donc, en fait, on vient au secours avec le trésor de l'Église. Des âmes séjournant au purgatoire qui, ayant quitté la lumière du jour, unies au Christ par l'amour, ont mérité, durant leur vie, que leur soit accordée une telle indulgence. Alors, je ne vais pas développer ce que sont les indulgences pendant ce cours, malheureusement, mais ce serait vraiment intéressant parce que c'est beaucoup décrié, mais c'est une très belle chose. Alors, au XVIe siècle arrive Luther. Au départ, Luther ne nie pas l'existence du purgatoire. Il ne fait que nier que ça se trouve dans l'Écriture. Et donc en 1520, Léon X va condamner plusieurs propositions de Luther, notamment le fait qu'il n'y a pas de fondement scripturaire. Il récuse l'affirmation selon laquelle il est impossible de, je cite, prouver le purgatoire par un texte de la Sainte Écriture qui soit dans le canon. Donc, il refuse l'idée sur laquelle le purgatoire ne peut être prouvé bibliquement. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis un peu forcé de le faire pendant le cours. Alors, il y a d'autres thèses qui sont refusées. Les âmes du purgatoire ne seraient pas sûres de leur salut. Si, si, elles en sont absolument certaines. Elles ne cessent de pécher aussi longtemps qu'elles cherchent le repos et ont horreur des peines. Non. Si on reprend Saint Thomas d'Aquin, le fait que les âmes souffrent dans le purgatoire et qu'elles désirent arrêter de souffrir est une bonne chose. Celles qui sont libérées du purgatoire, grâce au suffrage des vivants, sont moins heureuses que si elles avaient satisfait par elles-mêmes. Donc de nouveau, cette idée-là est fausse. Arrive le Concile de Trente. Entre-temps, Luther a radicalisé ses positions et le Concile est contraint de réagir de nouveau. Il y a trois textes qui vont traiter la question. Il y a un traité sur le décret sur la justification. Donc là, il dit qu'il est nécessaire d'expier une peine temporelle et de purgatoire. Et il précise la raison du purgatoire, c'est l'existence d'une peine temporelle à expier après la mort et avant l'entrée dans le royaume des cieux, parce que ça n'a pas été expié en ce monde-ci. Dans le décret sur l'Eucharistie, donc il a réaffirmé la légitimité d'offrir la messe pour ceux qui sont morts dans le Christ, mais qui ne sont pas encore purifiés. Et enfin, il y a un décret sur le purgatoire, qui soit directement visé, c'est nouveau ça, dans un concile. Il dit, il y a un purgatoire, les âmes qui sont retenues sont aidées par les suffrages des fidèles et soutenues par le sacrifice de l'autel, si agréable à Dieu. Avec le Concile de Trente, il y a encore la profession de foi tridentine qui affirme encore beaucoup de choses. Beaucoup plus proche de Vatican II, il y a l'encyclique de Léon XIII, donc en 1902, donc on se rapproche vraiment. Il dit « La communion des saints est une communication de secours, notamment pour ceux qui sont encore livrés au feu de l'expiation. » De nouveau, on encourage à la célébration de la messe. Dernière chose pour le purgatoire, une lettre en 1910, où on dénonce des erreurs d'orientaux. Je vous cite, il est regretté que l'on mette en doute de façon très imprudente les dogmes sacrés concernant le purgatoire et la conception immaculée de la bienheureuse Vierge Marie. Alors, c'est une phrase qui n'est là de rien comme ça, mais tout d'un coup, on dit que le purgatoire, c'est un dogme. C'est nouveau. Et on dit qu'il était aussi certain que l'Immaculée Conception. Voilà. Alors, le moins drôle, l'enfer. En 1201, le pape Innocent III écrit à l'archevêque d'Arles et il distingue deux choses. Il distingue d'une part le péché originel et le péché actuel. Et il dit qu'il y a deux peines différentes en enfer qui sont liées. Le péché originel induit la privation de la vision de Dieu et le péché actuel est-il écrit le supplice de la gêne éternelle. Voilà, deux peines. De nouveau, Innocent IV, dans sa fameuse lettre à Tusculum, donc en 1254, il précise les conséquences de la mort en état de péché mortel sans pénitence. Alors, je ne vais pas développer toute la théologie du péché mortel ici, mais il faut faire attention quand on entend cela, parce qu'on peut bondir assez vite. Hein, je rappelle quand même que pour commettre un péché mortel, il faut que ce soit une matière grave, qui est dite par les dix commandements. Il faut pleine connaissance de la chose, c'est pas juste l'information, j'ai entendu dire que, et la pleine volonté. Quoi. Et donc un péché mortel, c'est en ce sens où je me suis, par cet acte-là que j'ai posé librement, séparé moi-même de Dieu. Alors les conséquences de la mort en état de péché mortel, donc conséquences de la mort en état de péché mortel, sans pénitence, c'est d'être tourmenté pour toujours, est-il dit, par les feux de l'enfer éternel. Donc il dit bien que la possibilité est réelle, et il souligne l'éternité de l'enfer. Et la raison, c'est que c'est la conséquence d'un agir précis. Le Concile de Lyon va dans le même sens. Il précise trois choses. Vont en enfer les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel ou avec le seul péché originel. Il dit, ils descendent immédiatement. Ils reçoivent des peines inégales. Jean 22, 1321, va reprendre les affirmations d'Innocent IV. Et du Concile de Lyon, vous voyez, ils s'appuient les uns sur les autres, en œuvre de tradition. Et il dit, les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel ou avec le seul péché originel descendent immédiatement en enfer, où ils reçoivent cependant des peines différentes en des lieux différents. Benoît XII, donc on l'a vu dans la Constitution Benedictus Deus, il précise quelles sont les âmes qui se retrouvent en enfer, celles de ceux qui meurent en état de péché mortel. C'est nouveau, c'est immédiat, aussitôt. Enfin, deux dernières choses. Le Concile de Florence, en 1439, dit quasiment rien de nouveau. Il reprend les affirmations du Concile de Lyon et il ajoute un adverbe aussitôt. Et il dit, il change un verbe aussi, au lieu de recevoir, c'est punir. Enfin, Pie VI, il distingue deux peines, celle du dame et la peine du feu. On l'avait vu avec saint Thomas d'Aquin, mais là, il assume dans le magistère. Voilà pour le magistère. Alors, j'ai quand même voulu ajouter quelque chose, c'est quelques expériences spirituelles qui permettent d'approfondir. Donc, parce qu'on voit bien que l'approfondissement théologique se fait non seulement grâce à l'Écriture, au Père de l'Église, aux théologiens, le magistère qui vient confirmer certaines choses, mais aussi ce qu'on vit tout simplement. Et c'est vraiment un lieu théologique. Ça veut dire que ce qui se vit déjà aujourd'hui avec le Seigneur conduit ou peut conduire à une meilleure compréhension de ce qui se vit après la mort. Alors, il y a les grands saints, les Catherine de Gênes, Ignace de Loyola, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Marie de l'Incarnation, et Thérèse de Lisieux. Alors je commence par le ciel avec Sainte Thérèse de Lisieux. Pour Sainte Thérèse, donc, elle était reconnue docteur de l'Église, donc sous des dehors de petites histoires gentilles, en fait, une doctrine extrêmement solide qui est intérieure à cela. Alors pour Sainte Thérèse, c'est là une partie de son charme, c'est qu'elle parle de manière très simple et à laquelle on a l'impression de tout sauf quelque chose d'abstrait. Et pour elle, en fait, le ciel, c'est vraiment quelque chose qui a construit profondément son identité spirituelle, son être même, son existence chrétienne. Ça l'a fait grandir, ça l'a tiré profondément, à un tel point qu'on peut dire qu'elle en fait partie. Alors pour Sainte Thérèse, le ciel est tellement désirable qu'un jour, elle a souhaité à sa mère de mourir. Elle a trop envie qu'elle y aille. Et alors elle avait dit, ma chère maman, je voudrais bien que tu meurs. Alors sa mère a trouvé ça un peu drôle. Et elle s'est expliquée, je voudrais que tu sois au ciel. Mais elle, pour elle, c'était tellement évident que quand on mourait, eh bien, on allait au ciel qu'elle le souhaitait. Pour ceux qu'elle aimait le plus. Et donc, on voit bien, parce que ça le lit à sa mère, donc c'est assez tôt dans sa vie, que pour elle, aussi bien au tout début de sa vie qu'à la fin, la perspective du ciel est toujours présente, c'est quelque chose de très vivant, de très intense. C'est ce qui va en fait régler sa pensée, sa conduite même. Alors, manière dont elle en parle est assez déroutante, donc Sainte Thérèse a d'excellents souvenirs de famille, de moments spirituels très forts, et donc pour elle, le ciel, c'est le dimanche sans couchant, le dimanche qui ne finit jamais. Je vais dire ça à mes enfants avec tes chaises. C'est la communion éternelle dans la maison de Dieu. Et c'est une joie entièrement proportionnée à notre capacité. Elle dit, en fait, le ciel, c'est aimer, être aimé et faire aimer. Aimer, être aimé et faire aimer. Donc c'est rester toujours en présence de Dieu, c'est l'appeler son Père et être son enfant. C'est même, en fait, laisser le Christ aimer en nous. Sainte Thérèse a une autre petite originalité, c'est qu'elle va mettre en relief la dimension sociale du ciel. On n'a pas entendu tellement cela. Il dit, ben, le ciel, c'est comme une vraie vie de famille. C'est un amour fraternel. Et elle dit, chacun y est heureux du bonheur des autres. Dieu, en fait, permet que nous donnions la vie divine les uns par les autres, afin que nous puissions nous aimer d'un amour de reconnaissance et d'une affection bien plus grande encore que celle de la famille la plus idéale sur terre. Et elle dit, là, nous ne rencontrons pas de regard indifférent parce que tous les saints s'entredevront quelque chose. Tous les saints entre eux seront redevables de quelque chose. Ça, c'est peut-être une dimension qu'on oublie. S'entredevront, se devront les uns les autres quelque chose. Et donc, c'est l'interaction heureuse des libertés qui va être source de joie et de paix. Et donc, il n'y aura pas de jalousie, de regard envieux, d'opacité, d'incompréhension, rien de tout ça. Le bonheur de chacun des élus sera celui de tous. Et cette interaction entre les saints va traverser la mort. Puisque le ciel, ce sera aussi, et c'est là quelque chose une touche spéciale de Sainte Thérèse, ce sera aussi faire aimer Dieu sur terre. Et elle dit avec une audace impressionnante, au ciel, Dieu fera notre volonté. Parce qu'elle a tellement voulu faire la volonté de Dieu qu'au ciel, ce sera l'inverse. Au ciel, l'amour fraternel règne sans réserve, débordant du ciel sur la terre dans le sillage de l'action miséricordieuse et rédemptrice du Christ. Et oui, comme le Christ, tout rejaillit. Et donc, vous comprenez bien que pour Sainte Thérèse, les saints, ce sont ses grands amis. C'est sa famille. Et donc, le ciel, c'est la coopération à l'action salvatrice de Jésus. Mais vous connaissez peut-être cette phrase qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Hein, c'est vraiment ça. Dernier passage, le purgatoire. Alors là, comment comprendre le purgatoire? Moi, c'est les grands mystiques nous y aident bien. D'abord, Catherine de Gênes. Elle a écrit un traité du purgatoire que vous pouvez trouver sur Internet. Elle décrit l'expérience de la présence en l'âme de deux forces qui s'opposent. L'une qui attire à Dieu et l'autre qui s'y refuse. C'est-à-dire l'expérience de l'opposition entre la pureté de Dieu et sa propre imperfection. Autrement dit, Dieu attire amoureusement l'âme pour la ramener à sa pureté première, et l'âme est endolorie par le constat de sa propre résistance. C'est ça qui la fait souffrir. Et la douleur qui consume, disons, cette résistance est une douleur, elle consume comme un feu, mais qui n'a d'autre origine que l'amour. C'est-à-dire que le désir d'être tout à Dieu sans pouvoir y parvenir pleinement. Et donc l'amour est premier pour ces âmes. Et comme il est premier, il y a une joie, il y a un certain contentement. Ça c'est Catherine de Gênes. Alors très rapidement. Saint Ignace de Loyola. Dans cette maison, j'imagine que vous avez entendu parler des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Sinon, allez voir un père jésuite. Et vous savez que c'est divisé en 4 semaines. Il y a la première et la troisième semaine qui sont particulières. Dans la première semaine, c'est une méditation sur le péché. Et Ignace propose de considérer le péché et d'arriver à connaître ses propres péchés. Alors, il ne le fait pas dans un esprit masochiste. Pas tellement Saint Ignace, lui, il veut toujours se réformer pour pouvoir être davantage à Dieu. Et donc ici, c'est méditer le péché, mais pour s'en détacher, pour ne plus tomber. Et donc, il est proposé aux retraitants, je vous cite les exercices, d'éprouver davantage de honte et de confusion, de s'accuser d'avoir fait quelque chose de mal, et même de demander une grande et intense douleur et des larmes pour ses péchés. De les avoir en horreur, comme d'avoir horreur du désordre de nos opérations. Dans la troisième semaine, là, on contemple Jésus dans sa passion. Et donc, dans le but d'aimer Jésus davantage, Ignace propose à l'exercitant de demander douleur, peine et confusion parce que c'est pour mes péchés que le Seigneur va à la passion. Et même de s'affliger, en fait d'être triste avec Jésus, de pleurer avec lui, de le tenir compagnie si on veut. Et en même temps que tout cela, il propose de rendre grâce au Seigneur pour sa compassion et sa miséricorde à notre égard. Alors qu'est-ce que Ignace fait quand il propose cela ? Il propose deux choses, c'est d'un côté de comprendre la logique mortifère du péché, et de l'autre l'extrême bonté du Seigneur. Et dans ces demandes, dans ces semaines, eh bien, en fait, le retraitant souffre vraiment. Mais il souffre de quoi ? D'avoir blessé le Seigneur. Et en tout cas, dans la troisième semaine, un commentateur de la troisième semaine dit « En voyant le Christ que j'ai mis sur la croix, je souffre du fait que je l'ai mis sur la croix par mes péchés. Et en souffrant de bourreau, je deviens victime avec lui. Je suis associé au Christ en sa passion. » C'est assez puissant. Donc on voit bien ces deux choses qui coexistent. La souffrance et un grand amour pour le Seigneur. Autre grand saint, c'est Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix. Alors vous savez que dans le Carmel, il y a 7 demeures. Et la sixième, c'est la fameuse, qui terrifie peut-être un peu parfois, la nuit de l'esprit. Dans la nuit de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas trop vite penser qu'on est dans la nuit de l'esprit. L'âme, en fait, fait l'expérience, une expérience d'une double différence, et on souffre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la nuit de l'esprit, il y a un aspect moral et un aspect ontologique. L'aspect ontologique, c'est je constate la grande différence qu'il y a entre Dieu et moi. Et dans l'aspect moral de la nuit d'esprit, je constate la grande différence, enfin, la sainteté de Dieu et mon péché. Et la conscience de cela devient de plus en plus aiguë. C'est-à-dire qu'on voit qu'on fait tout pour aimer Dieu et on voit combien on le blesse. Et on l'aime tellement qu'on est détruit d'une certaine manière de lui faire si mal. On a une conscience très claire de ce qu'on vaut et du fait qu'on est pécheur. Et Wilfried Stinnissen, qui écrit un petit livre pour expliquer ça, dit, il y a une compréhension, il est déjà venu ici d'ailleurs, il y a une compréhension qui peut atteindre une acuité quasi insoutenable. Alors, vaut mieux citer peut-être Sainte Thérèse d'Avila, vous avez le texte. La douleur des péchés, comme il croit en effet d'autant plus dans une âme qu'elle reçoit davantage notre Dieu. Une chose certaine pour moi, c'est que jusqu'à ce que nous soyons arrivés là où rien ne pourra plus nous donner de peine, cette douleur ne cessera pas. L'âme arrivée à cet état ne considère point le châtiment qu'elle doit subir pour ses péchés, mais cette noire ingratitude qu'elle a eue envers celui à qui elle est si redevable et qui mérite tant d'être glorifiée. En effet, parmi ces magnificences qui lui sont communiquées, ce qu'elle comprend le mieux est celle de la grandeur de Dieu. Elle est épouvantée d'avoir eu tant de témérité. Elle gémit de son peu de respect envers lui. Elle voit qu'il est tombé par une folie tellement étrange qu'elle ne cesse jamais de la déplorer quand elle considère qu'elle a préféré des objets civils à une si haute majesté. Ce souvenir lui revient beaucoup plus souvent que celui des faveurs qu'elle reçoit, car ces faveurs lui semblent comme apportées par un grand fleuve à certaines époques. Ses péchés, au contraire, reviennent sans cesse, comme un bourbier infect agite sa mémoire, ce qui est pour elle une croix très pesante. Donc, ici, la douleur provient de l'amour intense qu'on a pour le Seigneur et du fait qu'on est profondément désolé d'avoir offensé celui qu'on aime le plus. Marie l'Incarnation va dans le même sens. Il y a une vision qu'on appelle la vision du sang. Elle se rend compte là de ses péchés, de leur horreur et de leurs conséquences. Et la conséquence de ses péchés, c'est l'effusion du sang du Christ qui en même temps la sauve. Et donc c'est la découverte de l'amour du Seigneur, de cet amour du Seigneur pour elle, qui cause une douleur extrême et un vif regret de l'avoir offensé. Un Pierre Gervais, qui donnait les cours sur la fin dernière autrefois, dit ceci à propos de Marie de l'Incarnation. La douleur dont il s'agit ici n'est aucunement l'amertume qui renferme sur soi-même, pas plus que la tristesse qu'engendre la conscience du geste irréparable. Elle est une douleur qui s'origine dans une sortie de soi. C'est parce qu'on est décentré de soi que c'est douloureux. Elle trouve son point de naissance dans la découverte inouïe que Dieu m'aime, en dépit de ma faute. Elle est le fait d'un amour reçu et rendu, d'un amour rendu parce que d'abord reçu. Elle découle d'une présence de la gratuité du pardon reçu. Oui, tous ceux que j'ai cités, c'est toujours la même chose. Donc on comprend bien que le purgatoire, ça doit être quelque chose comme ça. Et donc c'est pas un feu qui brûle. C'est peut-être le regret profond de ne pas avoir aimé ce qu'il y a de plus beau, ce qui est celui qui est le plus aimable et qui est pur amour en fait. Moi j'ai déjà beaucoup dépassé. Je termine vite avec Thérèse de Lisieux. très religieux, de nouveau très original. Elle parle très peu du purgatoire, mais par contre, elle a beaucoup travaillé à libérer les âmes du purgatoire. Et elle pense la justice de Dieu à l'intérieur même de la miséricorde de Dieu. En fait, Dieu est vraiment juste. Et donc, s'il est vraiment juste, il sera conscient de ma faiblesse. Et si je me confie complètement à Dieu en disant « mais je suis faible, sauve-moi », il va craquer. Et donc elle est dit « mais moi je ne vais pas passer par purgatoire, il n'y a pas de problème. » Parce que j'ai confiance absolue. C'est à la mesure de mon amour pour Dieu, si je me confie sans réserve, ben, il n'y aura pas choix. Et elle dit même, ça c'est très très beau, en fait Dieu n'a aucune envie qu'on passe par purgatoire, ça l'embête. Dieu nous aime tellement que nous voir souffrir, ça fait souffrir. Et donc Thérèse dit, moi je ne dirai pas au purgatoire, non pas parce que j'ai peur d'y souffrir, mais par amour pour Dieu. Je ne veux pas que Dieu souffre du fait que je sois au purgatoire. Et là on voit c'est cette sortie de soi magnifique de Sainte Thérèse Lisieux. Elle s'est oubliée elle-même par amour pour Dieu. Et donc, Sainte Thérèse n'espère pas du tout le purgatoire, elle espère le ciel. Hein? Au Carmel, où elle était, il y avait pas mal de sœurs qui s'offraient la justice de Dieu et qui espéraient qu'elle n'allait pas faire trop de purgatoire. Ou qui, voilà. Mais non, Sainte Thérèse dit, mais non, je ne vais pas y aller. Et donc, la confiance d'un amour. Et donc, ce qui purifie, c'est l'amour même. Le feu n'est autre que l'amour de Dieu. Et elle dit même, ben, si je suis au purgatoire, ce n'est pas grave. Je serais très contente de glorifier l'amour de Dieu. Donc le purgatoire est un effet de l'amour de Dieu qui purifie de l'amour de l'homme qui, libéré de son aveuglement, veut se laisser purifier. Ça c'est beau. Les âmes veulent se laisser purifier par amour pour Dieu. Vous voyez ? Voilà. Désolé d'avoir vraiment débordé aujourd'hui.